Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin, Cédric Fuentes et Guillaume Ménard. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Dernier jour de notre série consacrée à l'économie du voyage. Cette semaine, nous avons exploré l'industrie du tourisme, suivi les pas des premiers voyageurs en chemin de fer et pénétré au cœur du modèle économique d'Airbnb. Aujourd'hui, c'est le concept philosophique de voyage et les pratiques qui l'accompagnent qui vont nous intéresser. Le tourisme de masse a-t-il tué l'esprit du voyage ? La critique est aussi ancienne que le tourisme lui-même et elle nous renseigne sur ce rêve d'un ailleurs préservé, un désir de frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui, comme l'écrivait Montaigne. Mais le voyage est-il encore possible à l'heure où la planète compte chaque année près de 2 milliards de touristes ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons interroger l'imaginaire du voyage en compagnie de Thierry Pacaud, philosophe, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris, auteur de cet ouvrage « Le voyage contre le tourisme » dont la nouvelle édition est parue en avril aux éditions Hétérotopia. À 14h50, on retrouvera les nouvelles de l'écho, présentées par Arjuna Andrade et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Thierry Pacaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pourquoi, pour commencer, avoir choisi d'opposer le voyage et le tourisme ? Pour vous, ce sont deux réalités qui sont radicalement opposées ?
Oui.
Incontestablement. La réponse est franche.
Tous les opposent totalement. Alors qu'au départ, non. C'est-à-dire que le mot tourisme, qui est très beau, expliquait très très bien qu'on allait faire un tour. Voilà. Donc, et ça, c'est une excellente chose. C'est une sorte de voyage. Mais après, il a fallu le distinguer parce que le tourisme est devenu une affaire purement économique avec ses codes, avec sa rentabilité, avec ses critères, avec ses temporalités et avec son marketing, etc. Et donc, du coup, le voyage, lui, était à part. Et donc, on ne peut pas le comparer, on ne peut pas dire, voilà, il y aurait un tourisme de grande qualité, qui serait un tourisme culturel, un tourisme respectueux de l'autre, qui serait finalement du voyage. Non, là, malheureusement, on est obligé de les opposer.
Et alors, comment vous définiriez le voyage, Thierry Pacaud, et selon vous, quelles en sont les figures tutélaires ?
Alors, le voyage, évidemment, tout de suite, on pense à Ulysse, bien sûr, enfin, tout de suite, quand on est un occidental, évidemment, parce qu'il faut aussi qu'on désoccidentalise notre cerveau, parce que appréhender la question du voyage ou du tourisme nous oblige à aller voir ailleurs comment ça se passe aussi, puisque, comme vous avez certainement évoqué ça les jours précédents, quantitativement, aujourd'hui, les touristes sont chinois, à l'échelle de la planète. Donc là, il faudra enquêter davantage, savoir vraiment qu'est-ce que ça signifie pour eux de parcourir l'Europe en 8 jours. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, un exploit, quelque chose qui est jouissif, enfin qui instruit autant qu'il distrait? Ou bien est-ce qu'il y a aussi toute une philosophie du voyage qui préexisterait? Dans notre culture occidentale, il y a une philosophie du voyage depuis très très longtemps. C'est-à-dire que le voyage, je dirais presque, c'est la prise du pouls du monde au rythme de là où il se trouve. C'est-à-dire que, en fait, on ne dissocie pas espace et territorialité et temporalité. Les trois sont entremêlés.
Et c'est pour cela que Rousseau, par exemple, est souvent présenté comme l'archétype du voyageur.
Exactement. Alors en plus, par ailleurs, Rousseau était très très friand de la littérature de voyage. Il n'était pas dupe. Hein. Il savait qu'on lui racontait des bobards, mais il lisait beaucoup. Ça l'intéressait beaucoup. Et c'est vrai que lui, il prend son temps. C'est-à-dire que quand il marche à son rythme, il s'arrête lorsque le paysage lui souffle de s'arrêter. Il lui dit « Arrête-toi, regarde là, il y a des fleurs, regarde là, il y a un rocher, regarde là, il y a un lac. » Et Rousseau est très bon public.
Donc le voyageur doit plus être associé à la figure du promeneur, avec aussi cette idée de parfaire son éducation. Et là, on reste aussi du côté de Rousseau. Parfaire son éducation, c'était le but du grand tour qui était réalisé par les aristocrates anglais.
Oui, alors ça c'est évident que... Mais il faut bien avoir en tête, et ça lui est dit par votre historien qui est venu en parler, le grand tour, à la fin du XVIIe siècle déjà, c'est parfois 4 ans, 5 ans d'absence. Donc ce n'est pas, vous voyez, un aller-retour 24 heures comme aujourd'hui avec des publicités, vous allez prendre le petit déjeuner à Barcelone le dimanche matin et puis vous rentrez le soir. Non, non, là, je suis anglais, j'ai 17-18 ans, je sors de Cambridge, mes parents me dotent d'une espèce de personnage qui va faire mon éducation, qui va m'accompagner, qui parle les langues français et italien par exemple, et puis je vais partir 3 ans, 4 ans. Adam Smith, le célèbre économiste, a été comme ça quelqu'un qui a accompagné le fils d'un prince anglais pendant 4 ans. Et il en a profité, lui, pour ramasser beaucoup de documentation auprès des physiocrates français pour préparer son livre sur les causes de la richesse des nations.
Et alors, selon vous, Thierry Pacaud, on est passé du voyage au tourisme. Alors, comment ce basculement s'est-il opéré ?
Je pense qu'il s'est opéré sans trop le dire, mais dans votre chapeau introductif, vous le disiez très, très justement, dès qu'il y a eu du tourisme massifié à la fin du XVIIIe siècle déjà, c'est-à-dire des gens qui arrivaient en nombre, une centaine de citadins qui arrivaient dans une vallée allemande, hop, ça générait une réaction d'hostilité.
Flaubert, par exemple, critique les touristes de Rome au milieu du XIXe siècle.
Ça va pas, là, vous êtes trop nombreux, ça va pas. Donc, c'est très intéressant à noter que le tourisme est tout de suite accompagné de sa contestation. Et c'est l'impact du nombre. Le voyageur, il est seul, ou ils sont deux ou trois, bon. Et donc, du coup, ils s'inscrivent vraiment, ils inscrivent leur corps, ils s'inscrivent dans la population, ils passent quasiment inaperçus. Et donc, je pourrais les distinguer à partir où le tourisme s'affirme comme une organisation économique, donc avec Thomas Cook, en gros, c'est ça, et les expositions universelles. Mmh. Les expositions universelles, le chemin de fer, tout ça va ensemble, donc les wagons couchettes. Une nouvelle idée qui date de cette époque-là, c'est le luxe industriel. À tout un coup, on fabrique des bagages très très bien faits, avec du cuir merveilleux, etc. etc. Je ne donnerai pas de marque, bien sûr. Et puis des vêtements qui vont avec les activités du fameux touriste.
Et pour vous, le voyage est alors contrarié par notamment ces nouveaux modes de transport qui abolissent les distances ?
Alors, il est contrarié parce que tout d'un coup, il est décrié. Il est considéré comme étant une sorte de parent pauvre du tourisme. Le tourisme, lui, est dans le paraître. Et donc, il va aller dans des villes thermales, il va aller dans des villes où il y a des casinos, il va aller dans des villes où il y a des distractions très particulières. Tout ça est coûteux et ça va être effectivement le loisir d'une classe particulière que Torstein Veblen va appeler comme ça la classe de loisirs au tout début du XXe siècle. Et il n'a pas tort, ces gens-là, ils sont toujours en touristes, ils ne sont pas en voyage.
Donc c'est pour se donner peut-être un statut au XIXe siècle et plutôt pour le loisir ensuite au XXe siècle ?
Alors, la question du loisir est une question passionnante parce que le mot loisir en grec, c'est scholé, qui, comme vous savez, malheureusement a donné école, schule, school, etc., qui était le temps pour rien d'autre que la connaissance de soi. Donc ça, on est dans la philosophie. On imagine aussi de Platon, il prône le loisir pour que chacun prenne le temps de se penser dans le monde et de penser le monde en même temps. Et puis, ça va donner osium en latin. Mais osium ne donne pas loisir. C'est licere qui donne loisir. C'est-à-dire que c'est ce qui est licite. Donc, dans notre culture française, le mot loisir est entaché d'une autorisation. Mmh. C'est qu'il faut qu'on nous autorise de ne pas aller au travail. Donc, de pouvoir chômer une période.
Et alors, qu'est-ce que ça implique ?
Alors, ça implique que, du coup, le loisir est défini comme le reste du travail non utilisé comme travail. Donc, la société du travail va générer la société des loisirs. Et dans notre culture en France, par exemple, si vous prenez le grand livre de Geoffroy Dumasdier en 1962, Vers la civilisation du travail, point d'interrogation, il se pose la question, on parle bien de société du travail et son contraire serait la société du loisir. Et dans les loisirs, il y a un truc qui vient de naître pratiquement quelques années auparavant, qui s'appelle le Club Méditerranée. C'est-à-dire que on voit bien que dès qu'on parle de loisirs, on parle aussi de tourisme organisé. Or, la notion de société de consommation Elle n'arrive dans notre langue qu'en 1967. C'est Jean-Marie de Ménac, dans un article d'Esprit de cette époque, qui lance ce terme, qui sera repris par Jean Baudrillard en 1970, par un essai remarquable qu'il faut lire et relire, qui s'appelle « La société de consommation ». Et là, du coup, on a une espèce de glissement sémantique très intéressant. On n'a plus « société du travail contre société des loisirs », on a « société du travail contre société de consommation ». Et là, le loisir devient un objet de consommation.
Donc ce que vous dénoncez, Thierry Pacaud, c'est cette marchandisation du voyage, le fait que le tourisme est devenu une industrie. Et en même temps, il faut dire que le tourisme, c'est une immense source de richesse. Il y a des pays qui se sont développés presque exclusivement grâce au tourisme. Donc c'est aussi une chance.
Alors là, il faut creuser un peu plus et aller voir qui en bénéficie. Parce que le fabricant d'objets touristiques dont je fais la collection, moi, qui sont des boules de neige, hein, qu'on retourne comme ça, et on a tous les monuments du monde. Toutes mes boules viennent de Chine.
Donc ce que vous dites, c'est que le bénéfice du tourisme
voilà,
va essentiellement
à la Chine. Je doute qu'il y ait des bénéficiaires locaux. Hein, le marchand de glace, il vend des glaces, je ne donnerai pas de marque, internationale. Le marchand de cartes postales, pour autant qu'il en existe encore, puisque maintenant on fait des selfies qu'on expédie immédiatement à nos amis. Je ne crois pas, mais je ne suis pas économiste, mais je ne crois pas en la répercussion économique du développement du tourisme. C'est pas parce qu'un pays a de plus en plus de touristes, du reste on le voit dans le classement international, la France arrive en tête pour le nombre de nuitées, mais en quatrième voire cinquième position pour le budget moyen dépensé par le touriste moyen.
Plus on bouge, plus on a le sentiment d'exister dans une société de l'hypermobilité comme la nôtre. Donc, et bien souvent, cette mobilité-là, elle est associée au principe de liberté. Et c'est ce sur quoi, moi, je cherche à produire de la critique. C'est-à-dire que, est-ce encore une liberté que d'être obligé d'oublier son quotidien pour partir le plus loin possible de son lieu de vie ordinaire? Il y a peut-être d'ailleurs une question politique qui se joue derrière tout ça. Est-ce que le quotidien est devenu si invivable que pour arriver à supporter le reste de l'année, sa vie quotidienne, on soit obligé de partir quelques semaines par an à l'autre bout du monde, non plus vraiment pour le découvrir, mais peut-être pour avant tout oublier le monde.
On entendait le sociologue Rodolphe Christin dans l'émission Tout un monde sur France Culture. Si l'on part pour oublier son quotidien, le voyage n'en est plus vraiment un. Vous partagez cette analyse, Thierry?
Oui, là, je crois qu'il pointe une chose très juste, qui est en même temps très compliquée. Parce que moi, je veux donner de leçons à personne. Je ne vais pas dire à ceux qui achètent un déplacement touristique que ce sont des méchants, qu'ils n'ont rien compris et qu'ils se font avoir. Parce qu'ils ont droit, effectivement, à cette rupture avec un quotidien qui peut-être les aliène totalement. Mais en même temps, ce que j'espère pouvoir leur faire comprendre, c'est que devenir touriste, abandonner d'être touriste pour devenir voyageur, ne coûte pas cher. Ce n'est pas réservé à une élite qui disposerait de son temps et de son argent.
Bah, le temps, c'est déjà un luxe quand même.
Oui,
Tout le monde ne peut pas prendre un mois et demi de vacances pour pouvoir découvrir à pied un pays, par exemple.
Bah, il faudrait qu'ils puissent le faire.
Voilà, mais alors dans le système capitaliste dans lequel nous sommes, c'est potentiellement compliqué. Alors ce que vous dénoncez, Thierry Pacaud, c'est la mise en marché du territoire au profit du tourisme de masse, et notamment l'architecture type des équipements. Les villes sont marquées par cette extension du tourisme.
Oui, alors ça on le sait depuis plus d'un siècle. Hein. Il y a toute une littérature très très riche, très documentée, très illustrée du reste, qui nous montre comment toutes les villes, par exemple thermales, se ressemblent. Toutes les villes de casinos se ressemblent. Et maintenant, nous, on le sait parce qu'on a bien vu que pour qu'il y ait une ville, un attrait touristique, il faut qu'il y ait un aéroport international, il faut qu'il y ait des musées. Il y a un musée qui s'ouvre par jour sur Terre, quand même. C'est quand même assez ahurissant. Bon. Alors, peu importe ce qu'il y a dedans, d'une certaine façon. Hein. Il faut un musée, il faut des palaces, il faut des magasins, il faut des chaînes d'hôtels. Et là, je suis contrainte d'observer une espèce d'homogénéisation architecturale, en plus qui est tragique parce que ces aéroports, parce que ces hôtels, etc., sont en vitrage, sont en acier, sont en béton, c'est-à-dire les trois matériaux les plus contestés à l'heure de la question environnementale.
Le tourisme, on le sait, a un impact considérable sur l'environnement. Le tourisme dit de masse, c'est aussi l'un de ses gros inconvénients.
Oui, il y a une étude australienne et coréenne et chinoise qui a été publiée il y a quelque temps que je mentionne dans mon mon livre, qui révèle que l'émission de gaz à effet de serre produit par le tourisme, non pas seulement les avions, mais aussi le fait d'acheminer sur les lieux touristiques l'eau minérale, enfin tout ce qui va avec le tourisme, c'est 8%. Mmh. Donc c'est effectivement considérable. C'est plus que le logement.
Je vous propose maintenant d'écouter l'anthropologue Christian Bataillou. Il était l'invité du Grain à Moudre sur France Culture.
On a créé, à travers l'organisation touristique, des sortes de bulles qui sont des sortes d'objets transitionnels, comme disait Winnicott, de la peluche que l'enfant prend quand on l'inscrit à l'école maternelle pour la première fois et qui fait la transition entre son espace rassurant et l'école qui est le milieu extérieur. Eh bien, la bulle, le club, par exemple, fait cette transition. Et on a une fausse authenticité. On sait très bien que ce qu'on va nous présenter n'est pas authentique. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui permet aux gens de partir, ce côté rassurant. Et ces bulles, donc qui par définition annulent l'authenticité, tout en la recréant, sont finalement ce que cherche, je crois, ce que cherche le touriste. Il ne cherche pas le réel, il cherche un simulacre de réel.
Thierry Pacaud, vous diriez-vous aussi que le touriste cherche avant tout à retrouver ce qui lui est familier dans la nouveauté ?
Oui, alors j'observe, prenant un RER parisien qui dessert de beaucoup de lieux touristiques, donc je peux observer quotidiennement des touristes venus du monde entier, et je vois qu'ils ont les mêmes attitudes, c'est-à-dire qu'ils sont dans ce que j'ai appelé un éternel ici. Ils sont toujours chez eux, alors qu'ils sont en plein Paris, qu'ils vont peut-être descendre voir le musée des arts premiers, ensuite Versailles, etc.
Mais à quoi vous le voyez alors ?
Je le vois parce que dans le fait qu'ils parlent leur langue, ils sont en communication téléphonique avec leurs amis ou leur famille au pays, à qui ils envoient des selfies d'eux présents dans le métropolitain et non pas dans la ville, par exemple. Mmh. Et puis, dans les témoignages que j'ai pu lire, des récits de voyages organisés, eh bien, par exemple, les touristes chinois qui font le tour d'Europe en autocar mangent chinois. Et puis, ils ont dans leur poche des baguettes escamotables parce que la fourchette, ce n'est pas leur truc. Mmh. Donc, tout ça est intéressant à noter en même temps.
Il y a une critique importante dans votre ouvrage des nouvelles technologies, des smartphones, des tablettes. Pour vous, ce sont des obstacles entre soi et le monde ?
Oui, parce qu'en fait, ça ne sert pas de médiation, contrairement à ce qu'on dit, mais ça sert d'intersection. C'est-à-dire que, du coup, je n'ai même pas besoin d'aller voir la Joconde, puisque j'ai déjà vu 10 fois en vrai, c'est-à-dire en faux, sur mon écran. Et donc, du coup, quand je suis dans le Louvre pour l'admirer, comme j'ai 15 secondes, forcément, je ne la vois pas. Donc, je la prends en photo, simplement pour dire que je l'ai vue. Mmh. Donc, on est dans une espèce... Je crois que c'est une question philosophique de fond. C'est qu'on est en train de perdre la mesure de l'ailleurs.
Et alors ça passe aussi, par exemple, par la généralisation de l'air conditionné que vous qualifiez de tyrannie douce.
Oui, ça m'a été reproché quand j'ai publié cet article dans Le Monde Diplomatique il y a très longtemps.
Pour quelle raison ?
Par tous les géographes qui trouvaient que c'était nunuche quoi, de dire ça, parce que c'était tellement commode. Non, en fait, non, c'est parce que ça provoque aussi des pathologies terribles. C'est-à-dire que l'air conditionné, je prends l'avion. Je prends l'avion de Paris à Bombay, je mets 9 heures. J'arrive, là, j'ai un différentiel de température conséquent. Immédiatement, je sors de l'avion qui est air conditionné, je rentre dans une voiture air conditionnée, j'arrive dans mon hôtel air conditionné. Et là, j'ai une audace inouïe, je vais promener 2 minutes dans la rue. Là, c'est un risque énorme. Là, c'est la vraie température de 40 degrés. Mmh. Et puis là, je vais pouvoir le raconter comme un fait d'armes autour de moi. Eh bien, je pense que là, on a perdu une notion que tous les voyageurs mentionnent, celle de l'acclimatation. On a brûlé les étapes, si vous voulez. On a été trop vite dans un endroit qui n'est plus le nôtre.
Et ça va avec le fait, effectivement, de rester peu de temps et de vouloir maximiser son expérience, en quelque sorte.
Ah ben, évidemment. Et alors, pas seulement son expérience, mais l'achat de son séjour. Mmh. Hein, des études montrent très régulièrement que le poste budgétaire des gros voyageurs, voyagistes, je ne vais pas donner de nom non plus, c'est leur cabinet d'avocat. Parce qu'il y a des contentieux en permanence. Les gens sont excessivement durs. Ils ont payé pour avoir le droit à tant d'excursions, tant de plats à chaque repas, etc. Il en manque un, tant de soirées folkloriques et culturelles, il en manque une, hop, procès.
Donc finalement, là où le voyageur était un explorateur, aujourd'hui vous dites que le touriste c'est juste un consommateur à l'heure actuelle ?
Et alors, justement, on consomme une ville, on consomme un paysage, on consomme une culture, et cela passe par tous ces outils technologiques dont on a parlé, qui permettent de créer, en quelque sorte, une réputation. On voyage aussi pour les autres, comme le disait déjà Thorstein Veblen à la fin du 19e siècle.
Oui, évidemment, c'est un moyen de paraître. Tu reviens d'où? Qu'est-ce que t'as fait? Ben voilà, voilà. Et donc, c'est vrai que on dit du Parisien qu'il est plutôt vertueux. Il n'a pas d'automobile. Bon, mais il a une empreinte carbone d'avion énorme parce que il va passer un week-end à Prague, un week-end à Amsterdam, etc. Bon, et tout ça est excessivement coûteux. Mais en même temps, je veux pas diaboliser le tourisme, mais parce que je sais que c'est important pour lui existentiellement de se confronter à un autre. Donc c'est très très important. Je suis d'accord avec Montaigne, hein, bien sûr, quand il dit le voyage forme la jeunesse. J'ajouterais même que ça entretient la vieillesse. Donc je suis pas pour supprimer ça. Je suis pour qu'on supprime les modalités touristiques et qu'on adopte celles du voyage.
Oui, mais est-ce que ce ne sont pas précisément ces modalités au sens économique qui ont permis à autant de gens de voyager? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 1,8 milliard de touristes chaque année.
C'est paniquant même.
Mais alors vous dites que les circuits touristiques enferment le voyageur, mais tout le monde ne voyage pas dans le cadre de voyages organisés. Est-ce qu'il n'y a pas une marge de liberté même dans ces circuits touristiques ou dans le système économique du tourisme tel qu'il existe à l'heure
actuelle ? Il y a des voyageurs solitaires ou en couple qui peuvent échapper peut-être à la dimension touristique et renouer avec la pratique du voyage. Mais la pratique du voyage, ce qui est décisif pour moi, c'est quand même la temporalité. Parce que c'est prendre le temps d'être dans le temps d'autrui. Une de mes doctorantes qui habite Barcelone m'avait raconté le fait suivant. Tout un coup, tous les touristes croisiéristes qui descendent, ces énormes bateaux qui arrivent à Barcelone, tout à coup, ils sont des milliers, plus importants qu'une ville moyenne, qui descendent un coup. Ils arrivent là et puis ouais, il faut faire le parc Güell, il faut faire tout un peu de choses. Et il faut faire aussi les tapas. Et donc, il rentre dans le premier bar qu'il voit, il est 11h du matin, et il réclame des tapas. Et là, le patron, le bistrotier, comme on dit à Paris, répond, non, les tapas, c'est le soir, c'est comme pour vous l'apéritif, c'est vers 21h30.
Bon. Il y a des traditions à respecter.
Voilà. Eh bien, quelques mois plus tard, sur ces vitrines, apparaissent la formule tapas à toute heure. Dans uniquement les restaurants de chaîne internationale. Et en contre-coup de ça, il y a un pochoir dans les rues de Barcelone. Touriste égale terroriste.
On a vu effectivement à Barcelone que la résistance était particulièrement forte, oui. Et notamment aussi la stigmatisation de ceux qui louaient leurs appartements à Airbnb, avec des grands panneaux pour désigner les appartements jugés coupables d'accueillir des touristes.
Les gens s'en gênent, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est des gens qui ne prennent pas la mesure qu'ils sont parmi une population qui a aussi ses horaires de travail, etc., et qu'il faut les respecter.
Alors il est vrai que la réalité du pays est parfois gommée, qu'il y a des espaces clos qui se multiplient pour les touristes. On cloisonne les espaces ainsi, mais est-ce que ce n'est pas le touriste qui veut ça? Est-ce qu'on reproche au système, en effet, de lui procurer cela? Mais il y a vraiment une volonté d'échapper à cette réalité. Et alors ça, comment l'expliquer, justement?
Je pense que dès qu'il y a un voyage qui est peu ou prou organisé, on ne peut pas y échapper. Parce qu'il y a toute une infrastructure, il faut des autocars, il faut des parkings, la largeur de route. Moi, j'ai rencontré des maires au Portugal qui m'avaient raconté que s'il élargissait la rue principale qui était moyenâgeuse, alors il figurerait dans le parcours du voyagiste. Vous imaginez, c'est-à-dire que tout d'un coup, il faut dépatrimonialiser sa rue pour que l'autocar puisse passer. Alors, il a dit non, il n'a pas été réélu.
Ouais, ça a des conséquences culturelles très importantes. Je voudrais maintenant vous faire entendre l'ethnologue Marc Auger.
L'on fait des voyages virtuels avant de faire le voyage réel, n'est-ce pas? Puisque dans les agences de tourisme, on peut vous faire découvrir sur écran les endroits que vous allez visiter, en sorte que il semblerait parfois que le réel doive ressembler à son image pour être admissible. Là encore, c'est une tendance, bien sûr, ou un vertige. Cela dit, je crois qu'à travers les médias, nous reconnaissons des choses. Nous ne les connaissons pas. C'est vrai aussi des personnes que nous découvrons à l'écran. Et je crois qu'il reste une différence. Vous savez, c'est comme lorsqu'on rencontre quelqu'un de célèbre dans la rue, par exemple. C'est tout à fait différent de se heurter à une personne réelle, avec sa présence corporelle, etc., que de le voir à l'écran avec cette fausse familiarité que nous avons. C'est un peu la même chose pour les paysages. Et c'est pour ça que l'aventure individuelle du touriste, elle lui appartient.
Qu'est-ce que vous inspire ces propos, Thierry Parcot ? Le réel permet tout de même au touriste de vivre une expérience qui lui est propre ?
Oui, je pense que Marc Houget, là, est plus indulgent que moi par rapport, et je crois qu'il a raison de certaine façon.
La surprise demeure.
On ne peut pas faire passer tous les touristes pour des crétins qui seraient incapables de sensibilité, d'affect, d'émotion. Mais pour que ces émotions soient exaltées au maximum, il faut une mise en condition différente. C'est ça que je veux simplement dire. Et c'est vrai que si je visite les pays andins, comme je le raconte dans mon livre, avec un comité d'entreprise française, avec tous mes collègues de travail, donc c'est comme si on était déportés avec les mêmes gens de la même cantine, pour manger les mêmes plats avec les mêmes fromages qui venaient de France. Parce que c'était impératif, c'était dans le cahier des charges. Il fallait qu'il y ait des fromages, trois par repas. Alors dans les pays andins, il n'y en a pas. Donc il n'y a même pas cette espèce de nouvelle acculturation qui, pour moi, participe aussi du tourisme.
Alors est-ce qu'il est possible de voyager autrement et d'échapper aux sentiers trop balisés ? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'air se cabre dans la nuit d'hiver. Tout est silence, terre et ciel. Le désert, lui, loin de la mer, tout en bas du mont Saint-Michel. Au sommet, j'avale un vent muet, grisant comme un vin de Toscane. Mon regard plonge dans la baie, je vois passer la caravane. Ils sont bien 50. Les chameaux, les gens, sous la lune errante, là, se balançant. Le rythme royal me charme et m'appelle. Volant, je dévale les longues ruelles. Le sable doux comme un miroir, je cours vers eux tout en criant. Ils passent sans me voir, détachés sur le ciel d'argent. Seul, un homme au regard embrasé, fier comme un prince d'Erevan, me tend une rose embaumée. Et il rejoint la caravane.
Vous écoutez La Caravane de Brigitte Fontaine sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie du philosophe et urbaniste Thierry Parcot et nous parlons de la dimension symbolique du voyage. Alors, un retour du voyage est-il possible ? Le voyage entendu au sens philosophique par opposition au tourisme. Ce que l'on constate aujourd'hui, Thierry Parcot, c'est qu'il existe déjà des alternatives au tourisme dit de masse.
Alors là, évidemment, il faut les étudier, ce que j'ai un peu fait, parce que ça me semblait une bonne idée, évidemment, qu'il y ait un tourisme, alors je prends des appellations, je mets beaucoup de guillemets, un tourisme équitable, un tourisme durable, un tourisme hors des sentiers battus. Donc tout ça, ça partait d'un bon sentiment.
Avec l'idée de créer des liens avec des communautés et de faire bénéficier justement au niveau économique des communautés qui n'en bénéficient pas.
Ça ne marche pas. Enfin, je vais très vite, mais ça ne marche pas.
Et alors pourquoi ça ne marche pas ?
Je me souviens d'une étude sur la Casamance, par exemple, où les villageois étaient devenaient les hôteliers à tour de rôle. Ils tournaient un hôtel qui avait été fabriqué, évidemment, avec l'aide internationale. Mais c'était entièrement les villageois qui géraient ça. Et très, très rapidement, les bicyclettes n'étaient plus entretenues. L'eau n'alimentait pas les douches. Les repas étaient terriblement les mêmes midi et soir pendant 10 jours. Et donc, je crois qu'on peut pas transformer des paysans ou des artisans en des hôteliers.
Mais alors, ce que l'on pourrait conclure de vos propos, Thierry Pacaud, c'est que finalement, la seule chose qui marche, c'est une exploitation capitaliste du tourisme.
Je pense que le tourisme, il est capitalistique. Ce qui n'est pas le cas du voyage. Mmh. Le voyage, le pèlerin, l'étudiant en déplacement, je suis toujours excessivement heureux quand des étudiants partent en Erasmus ou l'équivalent, parce que je sais que là, c'est fort.
Mais donc ça veut dire que pour vous, il ne peut y avoir aucune exploitation économique du voyage, c'est antinomique.
C'est antinomique. C'est-à-dire que si le voyage devient une source de bénéfices et de profits, c'est que il a été profilé de telle manière qu'il devient finalement un tourisme entre guillemets un peu haut de gamme qu'on appellerait voyage. Mais le voyage échappe à ça parce que il échappe à cette logique. Il repose sur des rencontres, il repose sur des temporalités de l'attente, de l'ennui, des choses qui sont incompatibles avec la rationalité d'un voyage organisé où tout est plein. Nous passons d'un temps plein à un temps qui est, au contraire, subtilement distillé selon l'humeur de l'un, les attentes de l'autre. Et tout accident dans le voyage est un plus, d'une certaine manière. Donc c'est un tout autre état d'esprit.
Mais alors il y a énormément de circuits touristiques très balisés et en même temps, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'expérience est extrêmement valorisée. On veut montrer que l'on ne voyage pas comme les autres et Airbnb montre cela. Airbnb valorise des expériences. Alors comment expliquer qu'on ait ce besoin de différenciation?
Ça c'est typique de tout le système capitalistique dans tous les domaines. Hein, on est toujours en train d'essayer d'expliquer qu'il faut qu'on soit un peu différent pour pouvoir imposer sa marque, etc. Donc ça m'intéresse pas trop bien. Par contre, ce qui est important, c'est que si je veux voyager, c'est-à-dire si je veux être dans ce que j'appelle cultiver la disposition à la disponibilité d'autrui, alors là, évidemment, j'échappe à toute organisation quantifiée et donc rationnelle.
Mais ça montre quand même qu'il y a un désir d'authenticité qui est très fort.
Il faut pour ça que ce désir soit si puissant que ceux qui le manifestent rompent d'eux-mêmes avec le tourisme.
Vous parleriez d'un désir paradoxal, c'est-à-dire qu'en même temps, les logiques
économiques...
Je ne dirais
pas paradoxal, je dirais joyeux, émancipateur. Je pense qu'il faut que les touristes se libèrent.
Parce qu'à l'heure actuelle, on peut vouloir de l'authentique et en même temps de la sécurité. C'est en cela que c'est paradoxal, peut-être.
Alors là, si on veut ces deux éléments-là, on n'est pas dans le voyage.
Et alors, le besoin de distinction...
Le voyage, c'est l'inattendu. Ouais. C'est la surprise. C'est la promesse de l'altérité. Et ce n'est pas du tout gagné d'avance. Donc il y a toujours quelque chose de risqué dans le voyage.
Et alors vous allez me dire que c'est peut-être une vulgaire imitation de ces expériences dont vous parlez, mais il y a des expériences de plus en plus extrêmes qui sont proposées aux touristes. On propose maintenant des visites des bidonvilles de Rio, des visites de Tchernobyl ou d'anciens camps de travail staliniens. Il y a cette volonté d'aller toujours plus loin dans l'expérience.
C'est fondamentalement honteux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à discuter 5 minutes. On ne peut pas transformer des bidonvillois d'une favelle en des Mickey. Donc ça, je trouve ça indécent.
Bien évidemment, mais qu'est-ce que cela signifie que l'on propose ces produits?
Ça signifie qu'il y a une clientèle, vous avez raison, vous pointez une chose très juste, c'est que ce tourisme dit de l'extrême trouve toujours des gens parce qu'ils ont comme épuisé le reste. Ils ont déjà tout fait. Ils ont fait les 15 jours au Maroc, ils ont fait le tour des palais des Maharajas en Inde. Donc, qu'est-ce qui reste? Un truc pour surprendre les collègues de bureau, Tchernobyl.
Voilà. Et on se trompe en cherchant une sensation forte, là où vous nous dites, le voyage peut procurer une émotion particulière.
Mais évidemment, parce que le voyage, c'est une sorte de connivence entre un paysage et une temporalité. C'est-à-dire une culture, une manière d'être au monde. Et donc Bernard Charbonneau, par exemple, qui est un des premiers écologistes français, disait que il me faut 8 heures pour aller de Paris à Mexico en avion. Et il ajoutait, il me faut toute ma vie pour découvrir le petit Gave. pyrénéen qui est à côté de chez moi.
Mmh. Alors je voudrais vous faire entendre maintenant, Thierry Paco, une lecture d'un texte de Michel Butor.
Arrivant dans un lieu nouveau, et ceci sera particulièrement vrai pour le voyage à l'étranger, où l'on parle une autre langue, dans la disponibilité des vacances, je devrais me remettre à apprendre à lire. Les gestes ne seront pas les mêmes. Autre manière, autre loi, autre code de la route. Je déchiffrerai les affiches, les titres de journaux, les plaques des rues. Parfois dans une autre écriture, qui pourra offrir une énorme résistance. Chine ou Japon. Mon installation provisoire, mon adaptation, mon repos, mon intérêt dépendront en grande partie de ma faculté de lecture. Ma propre langue s'en trouvera rafraîchie. J'y découvrirai des aspects insoupçonnés. Mes manières aussi. Mon logiquité, ma patrie, deviendront bientôt aussi séduisants qu'était le pays de mon rêve enfin visité. Je désirais Venise. Venise me fait désirer Paris, Nevers, Maubeuge, l'illumine.
Un extrait d'un article intitulé « Le voyage et l'écriture » publié dans la revue Romantisme en 1972 et lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire ce texte de Michel Butor?
Je le trouve splendide évidemment, mais ça m'étonne pas. Michel Butor a aussi bien écrit « Le génie du lieu » que « Kangourou ». Et puis il a écrit ce roman qui l'a fait connaître, qui était « L'emploi du temps » et qui est en fait un mauvais titre parce que c'est « L'emploi de l'espace ». Dont il s'agissait. C'est-à-dire, dans son livre sur l'emploi du temps, il nous décrit ses parcours, un peu comme Pérec le ferait, quelques années plus tard. Donc, on a bien cette espèce de connivence, de complicité, le texte est splendide parce que il nous montre que ce qui nous habite, fondamentalement, c'est notre langue. Mmh. Et pour en prendre la mesure, il faut que nous soyons déstabilisés par une autre langue, une autre écriture. Donc, c'est comme si, à chaque fois qu'on voyageait, on revenait au plus près de soi.
Et en même temps, est-ce que les critiques du tourisme de masse que l'on entend de plus en plus ne sont pas le signe d'un refus de la démocratisation du voyage? Est-ce qu'il n'y a pas une conception fondamentalement élitiste du voyage tel que vous l'entendez?
Pas du tout. C'est l'inverse. C'est-à-dire que l'expression démocratisation du voyage, évidemment, est erronée. Il n'y a aucune démocratisation là-dedans. Il n'y a aucune démocratisation à devenir un consommateur aliéné. C'est pas possible, c'est l'inverse. La véritable démocratisation, ce serait de dire voyager comme vous le souhaitez.
Et en même temps, pour voyager, il faut prendre l'avion, par exemple. On ne peut pas s'abstraire complètement des logiques du marché.
Alors je pense que là on entre dans quelque chose que Michel Butor ou même Marc Auger ne pouvaient pas soupçonner, bien sûr, c'est l'empreinte carbone. Et le réchauffement climatique. Et là, je pense qu'il nous faudra apprendre à décroître nos déplacements en avion. Et c'est pas simple. Mmh. En avion et en bateau, parce que il paraît que c'est aussi coûteux en carbone.
Donc il faut renoncer à certains voyages, oui. Et peut-être renoncer à voir des grands monuments ou des sites qui sont jugés incontournables par les guides de voyage. Oui. Vous vous appelez à voyager moins, mais voyager mieux finalement.
Exactement. Pas forcément moins, mais mieux.
Et alors, vous disiez que ce but du voyage, c'était la rencontre de l'altérité. Pourquoi le voyage permet ainsi cette rencontre de l'autre?
Parce qu'il nous met dans des positions inhabituelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même, c'est pas les mêmes aliments, c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes gens non plus. Et donc, tout ça vient un peu chambouler notre quotidien. Et c'est en chamboulant notre quotidien, ça remet, j'allais presque dire, nos pendules à l'heure, d'une certaine manière. Donc c'est un effet de déstabilisation amical.
Quand vous êtes à Kyoto, quand vous êtes devant un jardin zen, et que vous avez été formé à Descartes, je dirais, et que vous avez lu la philosophie occidentale, vous dites « je ne comprends pas ce jardin ». Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est un lieu de méditation? Pourquoi est-ce que c'est un haut lieu de spiritualité? Et toutes les catégories occidentales ne fonctionnent pas. Donc là aussi, on est obligé de penser autrement. Ou dans des villages africains dans lesquels vous êtes allé après avoir fait trois heures de voiture sur des pistes totalement défoncées, vous arrivez dans un village. Vous vous dites, mais effectivement, on vivait comme ça probablement il y a des centaines de milliers d'années. Donc là, on est obligé, quand on rentre chez soi, de penser autrement son rapport à sa petite France, à sa petite Europe, à son petit Occident.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Michel Onfray, qui était interrogé en 2011 sur son ouvrage « La théorie du voyage ». Voyager, c'est ce qui permet de penser autrement?
Oui, alors juste pour une petite critique à Michel Onfray, c'est que dans son livre, qui est tout à fait plaisant, il avoue son plaisir de voyager, de prendre l'avion. Donc là, il faudrait que quelques années plus tard, il modifie peut-être son point de vue. Non, mais sinon, il a tout à fait raison, bien sûr. Je pense que le voyage, on pourrait le dire comme ça, le voyage, c'est la discontinuité, c'est le décalage. Le tourisme, au contraire, c'est la continuité dans un autre endroit. C'est comme si on changeait pas grand-chose.
Mais finalement, il ne faudrait peut-être pas opposer le touriste et le voyageur. En réalité, dans chaque touriste sommeille un voyageur. Vous appelez à réveiller ce voyageur.
Oui, c'est ça, exactement.
Et alors, comment réveiller ce voyageur?
Eh ben, il faut réveiller sa curiosité qui est double, parce que ça, les deux se télescopent. Il faut qu'il ait envie d'en apprendre plus sur lui. Parce que c'est ça le but du voyage. Hein, quand j'étais enfant, on me disait, pour que je laisse mes parents tranquilles, on me disait, va voir ailleurs si j'y suis. Bon, eh bien, je pense que c'est une excellente formule, finalement. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller voir ailleurs si on y est. Et ce faisant, on découvre de l'autre, mais on découvre aussi de l'autre en soi.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que justement, en découvrant l'autre, on se découvre soi, Thierry Paco?
Ben parce que on est dans une espèce d'appétence, de gourmandise de l'altérité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, on est certainement semblable en tant qu'être humain, mais on n'est pas identique. Ça, c'est un vieux principe grec que j'aime beaucoup.
Et pour cela, il faut du dépaysement, de la surprise et peut-être aussi d'accepter de critiquer sa propre culture. C'est ce que vous nous disiez au début de cette émission.
Oui, puis aussi peut-être, c'est moins marrant, mais du désagrément, de la souffrance, parce qu'on attend longtemps, parce qu'il fait très très chaud, parce qu'on n'a pas comme chez soi une douche et toute prête là à couler abondamment, bon, etc. Et c'est vrai que sur le moment, on va être excédé. Moi, ça m'est arrivé en parcourant l'Afghanistan de devoir l'autocar, qui n'était pas un autocar, enfin, qui était un espèce de truc bizarroïde bricolé, et c'est stoppé trois jours à attendre. Bon, bah, c'est pas
accepter les contraintes.
Voilà, et là, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Bon, on ne peut pas dire que super génial, je vais refaire ça demain. Mais finalement, rétrospectivement, ces trois jours-là, je ne les oublie pas.
Mais alors, est-ce que le meilleur moyen, finalement, de redécouvrir le voyage, ce n'est pas de se plonger dans les récits des écrivains voyageurs, comme Nicolas Bouvier ou Alexandra David-Néel?
Ben évidemment, là, vous en mentionnez deux magnifiques. Moi, j'ajouterais Robert Byron, parce que c'est mon préféré. La route d'Oxiane, c'est un chef-d'œuvre. Mais il se trouve que j'avais fait le même parcours que l'usage du monde, et que Nicolas Bouvier a fait un voyage qui aujourd'hui serait à refaire, parce que tout a changé. Tout ce qu'il raconte n'existe plus. Donc c'est là où on relativise la découverte touristique, parce que quand vous disiez tout à l'heure très 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 aimablement, alors on va plus aller voir tel château, mais tout ça est déjà profondément transformé.
Et en même temps,
tous les châteaux de la Loire sont entourés de centrales nucléaires aujourd'hui.
Mais en même temps, est-ce que la philosophie de ces récits, elle, n'a pas quelque chose à nous apprendre?
Si.
Et si oui, qu'est-ce que ça nous apprend alors?
Si, c'est pour ça que du reste, nos contemporains, c'est encore Platon ou Aristote. Ils sont pas morts.
Mais la philosophie, en l'occurrence, de ces écrivains voyageurs, vous, en tant que voyageur, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté?
C'est pareil, moi j'aime beaucoup lire le récit des Goncourt à Alger ou Flaubert au Caire. C'est une acuité, d'une intelligence, d'une subtilité. Parce qu'en même temps, ils savent très bien qu'ils partent, mais que cela ne va pas les transformer fondamentalement. Et comme ils sont assez critiques d'eux-mêmes, surtout les deux concours, c'est assez intéressant à lire pour ça.
Et alors, ce que vous nous dites, c'est que de voyager, de découvrir l'autre véritablement, ce qui suppose peut-être de quitter les circuits touristiques habituels, vous dites que cela ne coûte pas plus cher?
Non, bien sûr que non. Et là, il y a un très beau livre de Jean Chesneau qui s'appelle « L'art de voyager », où justement, il expliquait ça parce qu'on lui avait fait le reproche en disant « Ah oui, mais toi, t'es universitaire, retraité, t'as de l'argent, tu peux voyager, t'es bien reçu partout, etc. » Et il expliquait « Non, c'est tout à fait économique, parce que si je voyage au rythme, au pas, de la population que je vais rencontrer et parmi laquelle je vais essayer de m'installer, eh bien, je n'ai aucune dépense somptuaire. D'abord, je ne peux pas en faire.
Et est-ce que la littérature...
J'en fais à Dubaï, dans les supermarchés pour touristes. J'en fais pas dans un village de Gond.
Et est-ce que la littérature du pays ou de la région dans laquelle on voyage peut aider? C'est une habitude pour vous de découvrir la littérature du pays?
Oui, et parfois c'est excessivement troublant. Je reprends l'exemple de l'Afghanistan, parce que j'ai eu la chance, vu mon âge, de le visiter bien avant toutes les guerres qui l'ont totalement détruite. Il n'y avait pas de roman. Il n'y avait pas de romancière et de romancier afghan. Il y avait une poésie populaire. Et cette poésie populaire était en dari, était en pachtoun, était en ourdou. Donc j'ai trouvé des livres qui les avaient traduits soit en anglais, soit en français, et que j'ai lus. Et je trouvais pas ça top. Là, faut, je le dis honnêtement, c'était pas une poésie qui sonnait, qui me murmurait à mon oreille comme Baudelaire, par exemple, hein, qui est un vieux copain. Non, là, c'était autre chose. Et bien, pourtant, ce dépaysement poétique était une clé d'entrée dans ce pays, indéniablement.
Ça vous a aidé aussi, peut-être, comme on le disait, à vous découvrir, à changer de paradigme par rapport à ce que vous connaissiez. Et alors, est-ce qu'il y aurait des récits de voyage? On citait Nicolas Bouvier, Alexandra David-Néel, des récits de voyage que vous conseilleriez aux auditeurs et qui seraient vraiment des guides, en quelque sorte, de cette philosophie du voyage à laquelle vous aspirez?
Bon, là, je vais citer des auteurs parce que ce sont des voyageurs, mais c'est pas forcément des récits de voyage, mais de fait, si je pense à Ernst Jünger, par exemple, c'est des journaux où il retrace tous ses itinéraires, ses parcours dans différents pays. Je pense aussi à cet auteur néerlandais, je ne sais pas si je prononce bien son nom, C.S. Notenboom, hein, qui est aussi un grand voyageur, et même parfois dans des villes très proches de chez nous, comme Berlin ou Rome, mais qui nous montre un autre Berlin et un autre Rome. Et puis, évidemment, il y a toute la littérature anglo-saxonne. J'aime beaucoup les textes de Jean-Paul Sartre, par exemple, sur les villes américaines. Et puis, il y a un auteur, évidemment, à mentionner, puisque vous m'invitez à le faire, c'est Claude Lévi-Strauss. Triste Tropique, publié en 1955, est toujours un livre à avoir dans sa poche.
Vous disiez tout à l'heure, Thierry Pacaud, on arrive presque au terme de cette discussion, mais que si jamais notre système d'économie de marché ne nous permettait pas d'avoir le temps dont on a besoin pour véritablement voyager, il fallait inventer un autre système économique. Mais alors, en attendant de sortir du capitalisme, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner avant le début des grandes vacances? C'est-à-dire vraiment, comment est-ce qu'on peut vivre en tant que voyageur, vivre son voyage véritablement, alors, et redevenir un voyageur?
Voyager, ça veut dire marcher. Donc, alors, admettons, tant pis, vous me posez la question, je y réponds. Voilà, on prend l'avion, tant pis. Bah, voilà, on prend l'avion, on va à Chicago, pour X raisons, parce qu'il y a un festival de jazz. Bon, eh bien, là, on va à Chicago, mais on va pas mettre ses pas dans les pas de tous les touristes. On va justement aller visiter tout ce qu'on voit pas d'habitude, c'est-à-dire on va aller à la messe. Même si on n'est pas croyant, parce que là, tout d'un coup, elle est chantée, elle est rythmée, elle est autre. Elle n'est pas un dépaysement. Elle est une entrée dans une autre culture que la nôtre. On va aller au supermarché du coin, la petite supérette, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là, j'allais presque dire, entrer dans la ville par son ordinaire. Par ce que Pérec aurait même appelé l'infraordinaire. Et puis ensuite, on épuise le lieu. C'est-à-dire qu'on a tout fait. Tout fait à pied.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Thierry Pacaud. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous dites aujourd'hui qu'une proposition semble avoir émergé dans la course américaine à la primaire démocrate, celle d'annuler l'intégralité de la dette étudiante aux États-Unis.
Mais oui, annuler purement et simplement la dette colossale qui pèse sur les épaules des étudiants américains. Cette proposition a été formulée par Bernie Sanders, qui revendique d'ailleurs le caractère révolutionnaire de cette mesure.
It is time to hit the reset button. Under the proposal that we introduced today, all student debt would be cancelled in 6 months.
Il est temps d'appuyer sur le bouton de réinitialisation, de reset button. On entendait la voix du sénateur du Vermont expliquer la nécessité absolue de mettre un terme à cette absurdité criminelle qui consiste à condamner une génération entière à rembourser une dette pour avoir commis le crime de vouloir aller à l'université. Le sénateur Sanders a ainsi rajouté « Nous ne devrions pas punir les gens parce qu'ils veulent avoir une éducation condamnation plus élevée. Bernie Sanders s'en prend donc à cette peine à perpétuité, pensée à l'origine comme un outil d'émancipation avant de devenir un fardeau sous lequel croulent des étudiants par millions.
Il projette ainsi de rayer d'un trait de plume les dettes contractées par les étudiants dans un délai de 6 mois.
Absolument, un projet de loi sera déposé en ce sens au Congrès par le sénateur et 2 représentants démocrates à la Chambre. Leur objectif est de répondre à un phénomène devenu incontrôlable aux États-Unis, celui d'une explosion de l'endettement étudiant. Ce dernier est ainsi passé d'environ 90 milliards de dollars au début des années 90 à près de 1600 milliards aujourd'hui. Une augmentation sans précédent qui s'explique par un double phénomène. Tout d'abord, la baisse des aides publiques à l'enseignement supérieur a entraîné une hausse de l'argent engagé par les étudiants eux-mêmes. Mais surtout, c'est la demande pour l'éducation supérieure qui a été de plus en plus forte, conduisant à une explosion des demandes de prêts. Au bout du compte, ajoute Romaric Godin, ce sont 12% des étudiants qui font défaut et sont incapables de rembourser leurs dettes. Ils se retrouvent alors identifiés et fichés comme mauvais emprunteurs et sont dans l'incapacité de contracter un prêt pendant de nombreuses années. Ils sont également obligés d'arrêter leurs études et d'accepter les emplois précaires et peu qualifiés qui font aujourd'hui la croissance des États-Unis.
Et pour financer ce plan, Bernie Sanders a expliqué qu'il comptait créer une taxe sur les transactions financières.
Exactement, le sénateur envisage ainsi de taxer les transactions sur les actions à hauteur de 0,5%, 0,1% sur les obligations et enfin 0,05% pour les dérivés. Si de nombreux économistes mettent en doute le fait qu'une telle taxe suffise à financer l'annulation de la dette estudiantine, Bernie Sanders se fonde pour sa part sur une étude du Levy Economics Institute qui estime que le montant à financer serait bien plus faible que les 1600 milliards prévus. Cette étude explique ainsi que les 3/4 des prêts étudiants sont en réalité émis directement par l'État fédéral. Celui-ci s'étant déjà endetté pour verser ses sommes aux étudiants, si la dette était annulée, la puissance publique renoncerait à récupérer ses sommes, mais n'aurait pas à s'endetter davantage. Comme l'explique Romaric Godin, le financement de cette annulation ne concernerait ainsi que les 400 milliards de dollars de dettes privées et leurs intérêts, une somme que pourrait tout à fait couvrir une future taxe sur les transactions financières. Mais surtout, et c'est là toute sa cohérence, cette réforme s'inscrit dans un objectif plus large de gratuité totale des universités publiques du pays, ainsi qu'une attribution facilitée des bourses d'études destinées à couvrir les frais de livres, de transport et de logement. Un programme proprement révolutionnaire, vous dit-on.
Merci beaucoup Arjuna Andrade, et votre chronique est à retrouver sur le site de franceculture.fr et en podcast. Et à votre côté se trouve Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives Économiques. Bonjour,
bonjour
Guillaume. Et alors vous êtes venu aujourd'hui avec le chiffre du jour, 5,5%.
Oui, c'est le pourcentage qu'ont pesé les 3 impôts progressifs de notre système fiscal. Donc il y a l'impôt sur le revenu, l'ex-impôt de solidarité sur la fortune et les droits de succession. C'est ce qu'ils ont pesé sur les revenus primaires des ménages en 2018, selon les données que l'INSEE vient de publier. Les revenus primaires, ce sont ceux qu'on tire de l'activité économique avant impôts et redistribution. Les impôts progressifs pèsent plus en proportion sur les revenus et les patrimoines des riches que des pauvres, tandis que les prélèvements non progressifs, les autres, taxent autant les pauvres que les riches, voire plus parfois. Il s'agit de la TVA, de la CSG, des cotisations sociales salariales ou encore des taxes sur l'énergie, l'alcool, le tabac, etc. Ces dernières taxes ont pesé quant à elles 34,3% des revenus des ménages en 2018, soit 564 milliards d'euros contre 90, 6 fois moins pour les impôts progressifs.
Notre système fiscal n'est donc pas très progressif, mais comment ces chiffres ont-ils évolué entre 2017 et 2018, la première année de plein exercice du mandat d'Emmanuel Macron, Guillaume ?
C'est en effet une question intéressante, notamment pour comprendre le mouvement des gilets jaunes. Les rentrées des prélèvements non progressifs ont progressé de, progressé de 27 milliards d'euros entre 2017 et 2018, tandis que celles issues des impôts progressifs ont baissé de 3,5 milliards d'euros. Les rentrées de l'ex-ISF ont ainsi chuté de 5,1 milliards d'euros à 1,6 et celles de l'impôt sur le revenu, payées seulement par la moitié des ménages les plus aisés, de 0,3 milliards d'euros. Tandis que les rentrées de TVA ont progressé, elles, de 7 milliards d'euros et celles des taxes sur les produits, essence, tabac, alcool, de 5,7 milliards d'euros. Les rentrées de la CSG ont bondi, quant à elles, de 26 milliards d'euros. Cela a certes été compensé en partie par une baisse des cotisations sociales salariales, mais cette baisse n'a été que de 12 milliards d'euros l'an dernier. Le compte n'y est donc pas. Moyennant quoi, la part des impôts progressifs a diminué de 5,8% des revenus des ménages en 2017 à 5,3% en 2018, pendant que celle des impôts non progressifs grimpait quant à elle de 33,6 à 34,3.
Il n'est donc pas étonnant, Guillaume, que cela ait pu déclencher de la colère.
Bah oui, baisser les impôts qui pèsent sur les plus riches pendant qu'on augmente ceux qui touchent surtout les pauvres et les classes moyennes, c'est en effet un moyen assez sûr de mettre les gens dans la rue. Surtout que cette hausse des impôts non progressifs se poursuit en fait de manière régulière depuis 2009 dans la foulée de la crise financière. Il représente aujourd'hui 34% des revenus contre 30% en 2009. Cette progression a été de 14% en moins de 10 ans. C'est le contre-coup en particulier des politiques menées avec beaucoup de continuité depuis ce moment-là par les gouvernements de droite et de gauche. Ils ont tous abaissé les prélèvements pesant sur les entreprises au nom de la recherche de la compétitivité. Mais en compensation, pour continuer à financer les dépenses publiques sans creuser les déficits, ils ont dû augmenter les impôts qui pèsent sur les ménages. François Hollande avait cependant aussi accru significativement les impôts progressifs au début de son mandat et ça lui avait valu quelques ennuis. C'est ce qu'Emmanuel Macron vient de réduire, déclenchant ainsi une révolte populaire qui a secoué le pays pendant 6 mois.
Merci beaucoup Guillaume. Et la une d'Alternative économique ce mois-ci ?
La honte. Faut-il arrêter de prendre l'avion ? C'est tout à fait dans le sujet que vous venez de traiter.
Et alors, qu'est-ce qui est dit dans ce numéro ?
Oui, ça pose des problèmes croissants et qu'on peut sans doute pas espérer résoudre à l'avenir, même avec des avions électriques et toutes ces choses-là, et que donc il faut effectivement voyager moins et voyager mieux.
Et il y a aujourd'hui une conscience plus importante, vous diriez, autour de la nécessité de pas prendre l'avion ? C'est quelque chose qui est en train de monter ?
Je crois, oui, que c'est une conscience qui monte beaucoup. J'espère que celle de la nécessité de ne pas acheter des 4x4 montera aussi prochainement. Mais c'est vrai que par rapport à l'ampleur de la crise écologique, que la situation d'aujourd'hui, que la situation actuelle du climat montre, induit cette prise de conscience. Et j'espère qu'elle sera rapide et forte et pas simplement chez les jeunes.
Merci beaucoup Guillaume Duval et on vous retrouve à la rentrée après la pause estivale.
Go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep. There's nowhere I want to be, and nobody I want to see, but that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. And I can't hide or even walk away.
On se quitte avec Iggy Pop, I Want to Go to the Beach. Merci beaucoup Thierry Pacaud de nous avoir fait voyager autrement aujourd'hui. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le Voyage contre le Tourisme, paru aux éditions Hétérotopia. Demain, les Bleus affrontent les États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde de football. L'occasion pour nous d'interroger les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans le monde du sport. Ce sera la toute dernière émission de la saison. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter l'intégralité de nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
Well, an asshole is what you are, but that's all.